La culture est dans les starting blocks pour l'ouverture de la saison. Ça tombe bien, en Anjou, on a trois musées insolites. Bienvenue à l'écoute de cette nouvelle émission de Clic-Clac-Topette sur Radio G. Un programme culturel aujourd'hui, puisque je vais avoir le plaisir d'accueillir Cécile Goizet, la médiatrice des trois musées insolites en Anjou. On a le musée Joseph Donnet de Beaufort, avec ses momies, celui de Jules Desbois à Parçay-les-Pins, qui était ami avec Rodin, et enfin celui de Baugé, qui est assez insaisissable. Restez à l'écoute, vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Cécile va également nous présenter les belles expositions que vont accueillir ces trois lieux dès avril 2021. Mais avant ça, on commence avec Eva t'expliquer.
T'inquiète, Eva t'explique.
Salut Eva.
Salut papa.
On est quand même bien à la radio, hein. Tu vois, là je quitte les réseaux sociaux et je me rends compte qu'ici tout est plus calme.
Ah, les réseaux.
Ouais, il y a tellement de sujets sur lesquels les gens se déchirent, et même d'autres considérés par certains comme tabous. Et je me posais la question, finalement, c'est quoi un tabou ?
Les tabous désignent un ensemble d'actes ou de paroles interdites dans un ensemble culturel donné. Ce mot original nous vient des îles polynésiennes, où tabou ou taku englobe des pratiques interdites par les croyances et autres superstitions locales au risque de subir une punition divine.
C'est donc uniquement religieux ?
À l'origine, oui, mais par extension, cela désigne toutes les pratiques contraires à un ordre moral établi pour la cohésion d'une société. Cela peut concerner les religions, bien sûr, on en parle malheureusement beaucoup en ce moment, mais aussi la maladie, l'handicap, évidemment la sexualité ou la mort.
Tu dis une société, cela veut dire que les tabous sont différents en fonction des époques ?
Oh que oui, en fonction des époques mais également en fonction des cultures. Il n'est pas gênant de se promener nu avec un simple étui peignin dans certaines régions du monde, alors que c'est complètement inimaginable dans le centre commercial du coin.
On ne va pas essayer.
Pareil donc pour les époques, la notion de vie ou de mort par exemple a beaucoup évolué. Le sacrifice humain existait et fut même considéré comme une pratique nécessaire à la survie d'une communauté.
Donc cela veut dire que la notion de tabou évolue. C'est encore le cas aujourd'hui ?
Oui, et cela constitue d'ailleurs le principal obstacle pour faire avancer certaines causes. Dans nos sociétés actuelles, nous nous devons de déconstruire certains tabous pour faire reconnaître les différences et les accepter. S'il est aujourd'hui plus facile de parler du corps de la femme, de sa sexualité, de ses règles, il subsiste encore de nombreux tabous concernant l'homosexualité, et plus encore la transsexualité, le genre, etc.
Et j'imagine que tout cela ne se fait pas facilement.
Et non, car briser un tabou fait peur, nécessite de remettre en question tout un mode de pensée, et entraîne donc des résistances. On a pu constater que la libération de la parole sur des sujets considérés comme tabous jusqu'à présent, le harcèlement, le viol, la pédophilie, l'inceste, ne se faisait pas sans mal. D'où les échanges et conflits que tu retrouves parfois sur les réseaux sociaux, papa.
Ouais, et bah des fois ça fait du bien de prendre un peu de recul sur tout ça.
Il faut en parler de façon apaisée, dans un débat d'idées claires, sereins et respectueux.
Tu parles d'un débat serein. En ce moment, il y a tellement de conflits sur la pandémie que ça en deviendrait presque tabou d'essayer de parler calmement d'un virus.
Un virus ? T'inquiète, elle va t'expliquer.
Cécile Goizet, responsable des services des publics et communication des trois musées insolites en Anjou, bonjour.
Bonjour.
Donc ces trois musées, ce sont Jules Desbois à Parçay-les-Pins, le musée d'art et d'histoire de Baugé en Anjou, et on a le musée Joseph Donnet à Beaufort-en-Vallée. Joseph Donnet, c'était qui au juste ? Qu'est-ce qu'on peut trouver d'ailleurs dans ce musée ?
Alors Joseph Donnet, c'est un collectionneur habitant de Beaufort-en-Vallée,
ouais.
qui est né en 1851, donc personnage clé du 19e siècle en Anjou, quelqu'un qui s'était donné une mission, c'est-à-dire collectionner des objets du monde entier, de tous les domaines, dans l'objectif de faire vraiment découvrir le monde aux habitants de sa ville, de Beaufort. Donc on est vraiment sur ce qu'on appelle un cabinet de curiosité, un lieu complètement atypique, qui est surtout resté dans son jus car il est ouvert en 1905 et aujourd'hui vous pouvez le découvrir comme il était à son ouverture.
Ouais, ça devait être impressionnant à l'époque, avant Instagram et Wikipédia, de voir ça. Un peu plus à l'est du coup, on a le musée Jules Desbois. Donc même question, Jules Desbois c'était qui ? Je crois savoir que c'était c'était un ami à Rodin.
C'est ça, sculpteur 19e. Alors on est sur la même époque que Joseph Denaim, ils ne se connaissaient pas du tout. Mais c'est un artiste en fait, sculpteur, qui était très reconnu de son époque. C'est un artiste qui a réalisé beaucoup de sculptures dans l'espace public, espace public parisien, mais aussi à Angers, parce que vous pouvez voir le monument aux morts de la ville d'Angers, qui est Place Leclerc devant le tribunal, qui a été réalisé par Jules Desbois. Sculpteur classique, mais qui a eu son travail personnel plutôt autour du réalisme, et ami et collaborateur d'Auguste Rodin.
Alors, troisième et dernier musée insolite en Anjou, et très insolite parce qu'en fait, c'est un musée qui n'existe pas à Baugé.
Alors, c'est un musée qui existe, mais qui est ce qu'on appelle en boîte. En fait, le musée d'art et d'histoire de Baugé, qui date de 1905, est à l'origine un appel aux dons du maire de l'époque aux habitants du Baugeois pour réaliser un musée, ce qu'on appelle ethnographique. Et il a fermé ses portes en 2014. Et on espère pouvoir ressortir toutes ces pièces de ces boîtes dans quelques années, dans un nouveau lieu.
Alors on l'attend avec impatience, hein, cette réouverture des musées et des lieux culturels partout en France et notamment en Anjou. Et pour inciter les visiteurs à venir par ici, il y a des expositions je crois qui vont commencer là dès avril, qui devraient commencer dès avril, notamment au musée Joseph Denaim, une exposition sur la mode des temps passés.
Alors c'est ça, le mois de mars, comme chaque année, on est dans une période de montage d'exposition et on espère pouvoir les montrer au plus vite dès le mois d'avril si les protocoles nous le permettent et si les autorisations nous le permettent. Et donc à Beaufort, on a fini le montage d'une exposition qui s'appelle « Élégance, modes et vêtements des grands jours ». L'objectif, c'est de faire découvrir aux visiteurs la collection de textiles que l'on a, parce qu'il faut savoir que c'est une collection qui est très fragile, donc qu'on ne peut pas montrer dans les collections permanentes. Et cette exposition, c'est tout simplement le résultat de 2 ans de travail de restauration d'une partie de ces textiles avec des vêtements qui datent pour certains du 18e et du 19e siècle pour montrer l'élégance selon les différentes périodes de notre vie.
On pense aux femmes, je sais pas pourquoi je pense à des vêtements de femmes, mais peut-être pas que.
Ah et ben non, pas que, justement, enfants et hommes aussi beaucoup.
Du coup, à Parcé-les-Pins, on s'intéressera aux amitiés artistiques angevines avec le musée Jules Desbois.
Alors, cette année, on fête les 20 ans du musée. Mais le musée, il a ouvert en 2001, mais il faut savoir qu'il a une existence beaucoup, beaucoup plus lointaine, ou en tout cas des personnes du territoire du Noyant Village qui se sont intéressées à Jules Desbois il y a bien longtemps, et donc dont une famille, la famille Bertrand. Donc Fernand Bertrand, père, et puis aujourd'hui son fils, qui vont collectionner des œuvres des artistes en et qui en ont fait aujourd'hui une très belle collection qu'on aimerait montrer pour aussi voir quels autres artistes opéraient à l'époque de Jules Desbois.
Alors ce fameux musée de Baugé qui n'existe pas, en tout cas qui est en boîte, va sortir un petit peu des boîtes justement, pareil en avril.
On essaye chaque année en fait d'organiser des expositions temporaires en mettant en avant une partie de nos collections, en mettant en valeur quelques objets. Et cette année, le sujet, il va de soi par la date, en fait, parce qu'on fête cette année les 600 ans de la bataille du Vieil Baugé. Donc l'exposition à Baugé va être vraiment une exposition commémorative, mais aussi ludique. On veut vraiment que tout le monde s'y retrouve. On va parler de batailles médiévales, on va parler de chevaliers, et on va voir des très belles collections, dont un très beau tableau du 19e qui représente la bataille, mais on a envie aussi de s'amuser. Et donc, il va y avoir un grand jeu sous la forme de l'histoire dont tu es le héros, où chaque enfant et adulte pourront choisir un personnage clé de la bataille et avancer pour voir s'ils vont vers la victoire ou la défaite. Donc, l'idée, c'est vraiment de s'amuser sur ce sujet-là, mais aussi avoir une partie historique pour les personnes qui sont intéressées par la partie histoire.
Donc à découvrir à partir du mois d'avril au château de Baugé.
Exactement.
Les autres expositions sont à découvrir du coup au musée Joseph Denaim à Beaufort-en-Vallée et au musée Jules Desbois à Parcé-les-Pins. Est-ce que Cécile, tu voudrais conclure par un petit mot ?
N'hésitez pas à venir faire un petit tour et faire plusieurs musées même sur une même journée. L'occasion aussi de découvrir notre beau territoire, nos belles forêts et notre beau patrimoine.
On continue de profiter des musées à la radio grâce à Raphaël qui nous dessine la galerie David d'Angers.
Autour de moi, des visiteurs déambulent tranquillement. Ils commentent en chuchotant, en observant, en s'extasiant devant les multiples statues, sculptures, portraits en buste, médaillons, des œuvres souvent monumentales. signés pour la plupart par l'artiste angevin David Danger. Aujourd'hui, je dessine au cœur de la sublime et étonnante galerie qui lui est consacrée, la galerie David Danger. Bonjour, c'est Raphaël, je fais partie du groupe Urban Sketchers d'Angers. Notre but, dessiner, peindre la ville, notre ville, Angers. En ce samedi matin, le groupe de dessinateurs et peintres amateurs se répartit dans l'espace. La consigne est simple. Choisir une œuvre, la reproduire sur le papier en intégrant son contexte, l'architecture urbaine. Ce musée était auparavant une abbatiale, l'abbatiale Toussaint. On y observe encore les anciens murs en tuffeau, les façades en pierre, la grande rose, les anciens vitraux. Mais ce qui frappe ici, c'est sans doute le sublime toit en verre, les poutres en ferraille, la modernité des matériaux choisis, le bois, le béton, qui juxtaposent ceux du temps passé. Le contraste est saisissant. Et c'est fascinant à dessiner, à détailler, à reproduire. La grande sculpture que j'ai choisie porte un casque à plumes. C'est un homme torse nu. Je pense que c'est un soldat. J'essaie de reproduire la musculature, le corps. Et là, je me rends compte que les proportions ne sont pas très bonnes. Tant pis, je recommencerai plus tard. Je dessine avec des crayons à la mine plus fine, à 0,03 mm, l'architecture des pierres qui se situent en arrière-plan de ma statue. J'y ajoute les ombres et colorise mon dessin au marqueur, aux couleurs, aux noms évocateurs. Rose pourpre, champagne, amande, grimacilla. Il y a tellement de choses à faire ici, j'ai adoré la lumière, les ombres, la perspective. J'ai forcément envie de recommencer.
Info, sorties, loisirs et bons plans sur l'agglomération angevine avec Angers Ma Ville sur Radio G. Dans le numéro du 24 mars d'Angers Ma Ville, Alice, tu nous emmènes avec trois angevines qui partent faire un trek dans le désert marocain. Mais avant ça, c'est toi, Catel, qui nous emmène dans les lieux culturels à Angers avec les meilleurs souvenirs des angevins.
Oui, alors dans Angers Ma Ville, on a l'habitude chaque semaine d'annoncer des événements programmés à Angers, voire un petit peu au-delà. On propose des sélections de concerts, de pièces de théâtre. Évidemment, depuis un an, l'agenda culturel est complètement chamboulé. On essaie donc de relayer les événements diffusés en ligne, comme le fait par exemple le Shabada. Et on attend surtout impatiemment la réouverture des lieux culturels, dont la plupart sont encore fermés. Alors, en clin d'œil à ces établissements, dont nous avons l'habitude de parler, aux personnes qui y travaillent, on s'est penché sur les souvenirs marquants qu'évoquent ces lieux. On a recueilli les témoignages d'angevins, dont beaucoup d'acteurs culturels qui nous racontent leurs souvenirs de concerts, d'expositions, de spectacles.
Alors, de quel lieu parle-t-on précisément ?
Alors, beaucoup. Y a des spectacles au quai et au théâtre du champ de bataille, les accroche-cœurs, l'exposition Art au couvent, organisée en 2019. Et puis, je m'arrête là, on vous laisse découvrir la suite dans le journal.
Alice, on part à l'aventure avec toi maintenant.
Oui, j'aimerais mettre en lumière cette semaine la motivation de trois femmes, Hélène, Isabelle et Amélie. Ces femmes ont toutes les trois connu le cancer, et après, comme une revanche sur la vie, elles ont décidé de participer au trek Rose Trip au Maroc. Elles partiront fin octobre pour 5 jours de trek à pied dans le désert. Le trek a aussi une portée solidaire, car en plus des fonds qu'elles souhaitent recueillir pour se payer le voyage, elles récoltent aussi de l'argent pour financer des actions sur place en faveur de la population locale. Une bonne démarche pour elles, pour soutenir à la fois le sport santé pendant et après une grave maladie comme le cancer, mais aussi soutenir la population pauvre du Maroc.
Comment peut-on les suivre ou les soutenir ?
Avec leur page Facebook, les Roses des Vents 49, et leur campagne de financement participatif sur le site helloasso.com. Vous cherchez tout simplement l'équipe Roses des Vents.
Retrouvez les infos sorties et bons plans sur les réseaux sociaux et sur angemaville.com. Au cours des trois précédentes chroniques, Thomas a tenté de nous expliquer comment la Croix d'Anjou était devenue Croix de Lorraine, en exposant à chaque fois une hypothèse parmi les nombreuses qui existent. Mais une d'entre elles prétend que ce symbole était déjà présent en Lorraine.
Eh oui, tout à fait. Il y a une légende qui veut que Godefroy de Bouillon, qui était duc de Lotharingie au XIIe siècle, ait inspiré René d'Anjou. Lors d'une croisade à Jérusalem, il aurait dressé une croix à double traverse en haut de l'église du Saint-Sépulcre pour faire face à l'ennemi. Et René lui aurait rendu hommage quelques siècles plus tard en adoptant cette croix comme le symbole familial. Seulement voilà, cette hypothèse nous pose deux problèmes. D'abord, comme la Lotharingie est un territoire qui englobe la Lorraine, on aurait donc déjà une trace du symbole à l'est bien avant l'arrivée des Angevins. Et ensuite, elle contredit celle que j'ai sciemment choisi d'exposer dans les chroniques précédentes, qui veut que le roi René ait adopté ce symbole en hommage à la relique du Christ qui repose en Anjou.
D'ailleurs, pourquoi retrouve-t-on aussi cette croix à double travers, cette croix patriarcale, sur les armoiries officielles et le blason actuel de la Hongrie ? Est-ce qu'il y a là aussi un lien avec les Angevins ?
Alors, très succinctement, les Angevins ont en effet régné, entre autres, sur la Hongrie. Sauf que la croix patriarcale y est amenée près de 400 ans avant l'arrivée des Angevins. Et lorsque deux évangélisateurs entreprennent de convertir toute la région au christianisme. Et le symbole apparaît ensuite notamment sur les monnaies hongroises. Mais, surprise, c'est bien un descendant de la maison capétienne d'Anjou-Sicile, Louis Ier de Hongrie, qui, au XIVe siècle, redessine les armoiries de son royaume pour y inclure une croix patriarcale. Mais attention, ami Angevin un peu chauvin, pas de quoi fanfaronner. On a vu ensemble que le lien est clair entre la croix d'Anjou et la croix de Lorraine, mais je mentirais si je vous disais que ce sont les Angevins qui ont répandu la croix patriarcale à travers l'Europe. Que ce soit au sujet de la Lotharingie ou au sujet de la Hongrie, on l'a évoqué dans une précédente chronique, la croix patriarcale existe depuis bien longtemps, bien avant l'avènement des ducs d'Anjou.
D'ailleurs, de tout temps, cette croix patriarcale a été utilisée comme un symbole fédérateur. Des croisades aux conflits entre seigneurs locaux et jusqu'à la résistance française, aujourd'hui encore, cette croix figure sur les emblèmes de la lutte contre les maladies pulmonaires aux États-Unis. Et continue d'ailleurs d'alimenter discrètement mais fièrement le sentiment d'identité angevine en s'affichant en haut de la cathédrale Saint-Maurice d'Angers et sur le blason de nos sapeurs-pompiers départementaux. La Suède a vécu le Dagen H en 1967, son passage de la conduite à gauche à la conduite à droite pour s'uniformiser avec l'Europe continentale. Mais pour l'Anjou, Calix Denis-Gremont en 2021 propose une autre chose.
À gauche toute, où une bonne conduite n'est pas toujours celle que l'on pense. Or donc, maintenant que les Britanniques ont mené à bien cette méchante affaire de Brexit, le Royaume-Uni dérive seul, loin de l'Europe, vers son destin inéluctable, ce qui ne fait en rien nos affaires. Je rappelle en effet à ceux-là qui auraient raté quelques-unes de nos initiatives de ces derniers mois que notre objectif est non seulement l'indépendance de l'Anjou, mais encore la reconstitution de l'Empire Plantagenet, sur lequel, de l'Écosse aux Pyrénées, la dynastie angevine régnait au XIIe siècle. De fait, nous comptions sur le soutien britannique pour appuyer notre émancipation et, nous trouvant une communauté de destin, nous soutenir dans notre combat. Or, malgré diverses tentatives aussi aguicheuses que Salomé exécutant la danse des sept voiles devant Hérode Antipas ou le karaoké d'un célibataire dans un club de vacances, les Anglais n'ont pas manifesté le moindre intérêt pour notre projet, pas plus d'ailleurs que pour l'existence de l'Anjou. À leur décharge, ils ont fort à faire ces temps-ci avec les confidences, encore que le terme soit assez mal choisi pour un entretien vu par une centaine de millions de téléspectateurs, des Sussex, entendez, Harry et Meghan. C'est pourquoi je crois judicieux, pour l'Anjou, d'envoyer un signal fort, comme on dit dans les éléments de langage des soirées électorales à la télévision, à l'Angleterre, en proposant que notre futur État souverain adopte, en matière automobile, la conduite à gauche. Si, certes, il y a quelques inconvénients mineurs à cette initiative, sur lesquels je ne m'attarderai donc pas, il y a là matière à envoyer au monde et aux Britanniques une démonstration spectaculaire de la détermination de notre volonté d'indépendance. J'appelle donc tous les partisans de l'Anjou libre à rouler, dès maintenant, à gauche. Montrons ce qu'un peuple décidé peut faire, tout en faisant la fortune des tôliers carrossiers angevins. Et rallions à nos vues nos anciennes colonies anglaises. Mais, donnant, je devrais dire win-win pour faire plus crédible, nous attendons de la Grande-Bretagne qu'elle rende le coin tropolitain obligatoire dans chaque foyer anglais.
Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout pour écouter cette émission de Clic-Clac-Topette. Vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de radio-g.fr et nous suivre sur les réseaux sociaux à Clic-Clac-Topette. Prenez soin de vous, Topette.